Les rapports Repond, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième épisode, le rapport économique.
Pour assurer sa mission hospitalière à moindre coût, la direction de Malevo a, dès sa création, mis en place des stratégies efficaces. La gestion d'une ferme pour produire la nourriture servie aux malades, la collaboration d'une trentaine de religieuses qui assurent sans contrepartie salariale la cuisine, la blanchisserie et une partie des traitements. Et enfin, la construction d'un pavillon de première classe pour une clientèle fortunée payant pour les patients et patientes les plus précarisés. Ce modèle économique a fait ses preuves durant les premières années de fonctionnement. Et ça a convaincu l'État du Valais à racheter l'institution pour un prix symbolique en 1917. En devenant hôpital public, le directeur et son administrateur doivent rendre des comptes au service des finances. Ils ont donc rédigé chaque année un rapport d'activité. Ce document couvre tous les secteurs de l'hôpital. Les questions médicales, bien sûr, mais aussi la gestion économique et le fonctionnement de la ferme. On peut y lire par exemple qu'en 1939, l'hôpital emploie des médecins, des infirmières et infirmiers, du personnel administratif, mais aussi des paysans, des menuisiers, des jardiniers et autres artisans. Du côté de la ferme, chaque culture est décrite séparément, année après année. On peut suivre l'état du cheptel, les vélages, le nombre de bêtes conduites à la boucherie, etc. Cette ferme, tout comme l'approvisionnement de l'hôpital, sont les marqueurs de la crise que traverse la Suisse pendant le conflit mondial. Les rapports montrent comment, grâce aux champs et aux animaux, l'hôpital va se prémunir des pénuries, en tout cas dans un premier temps. Car pour l'heure, nous sommes en 1939 et la récolte semble plutôt bonne.
Dans l'ensemble, nos différentes cultures horticoles ont donné satisfaction. Quelques variétés de légumes ont pourtant souffert des influences atmosphériques défavorables de l'année et surtout de l'automne pluvieux. Les cultures de pommes de terre hâtives ont un peu souffert de maladies. Les tomates, comme partout du reste, n'ont pas atteint leur maximum de rendement et les haricots tardifs ont souffert de l'humidité. Par contre, les autres cultures ont été d'un excellent rapport. Une nouvelle fraisière, établie à l'automne 1938, a donné une récolte inespérée pour la première année, soit 1249,5 kg sur une surface de 1000 m². La récolte des autres petits fruits, cassis, framboises, groseilles vertes et rouges, a été de 1661 kg.
Pour les autorités et la population suisse, l'été 1939 est un été qui est marqué par les traumatismes vécus de 14 à 18. Et la Suisse se prépare en fait depuis plusieurs années au fait qu'il va y avoir une guerre mondiale.
Marc Pernoux, historien.
Donc il y a un système d'économie de guerre qui est déjà mis en place par les autorités. Et dès le 30 août, donc même avant l'attaque allemande sur la Pologne, le Conseil fédéral s'accorde les pleins pouvoirs et l'Assemblée fédérale élit le général Guisan comme chef de l'armée suisse pour se préparer à la guerre. Et c'est la mobilisation, donc plus de 400 000 militaires sont appelés sous les drapeaux pour défendre la Suisse contre une éventuelle agression.
Lors de la mobilisation, tout le personnel de la ferme a été appelé sous les drapeaux, à l'exception d'un jeune homme de 18 ans. De plus, nos trois chevaux et notre tracteur avaient été réquisitionnés. Le personnel infirmier de l'établissement et un certain nombre de malades purent heureusement suppléer à ce départ de toute notre main-d'œuvre.
Le site de Malevo va se développer comme tous les hôpitaux psychiatriques. Il faut qu'il y ait une autonomie de l'hôpital.
Gabriel Binder, sociologue, historien et directeur du quartier culturel de Malevo.
C'est un vieux modèle. C'est un modèle, en fait, du couvent. C'est-à-dire que le couvent, le monastère, doit être autonome et a ses terres. Donc, Malévo aura sa ferme. Alors, dès le départ, on dit que les patients participent au travail agricole, mais uniquement si ça bénéficie aux soins.
Nous utilisons à la ferme, dans toute la mesure du possible, la main-d'œuvre de nos malades. Une occupation régulière leur est toujours très utile et souvent même nécessaire, car elle les aide, vers la fin des crises aiguës, à se réadapter rapidement à la réalité et, dans les cas chroniques, elle leur permet de maintenir de bonnes habitudes et de diminuer l'intensité de certains symptômes.
Donc tous ces hôpitaux, ils disposaient de champs d'exploitation agricole.
Christina Ferreira, sociologue.
Aussi, ils faisaient de la sous-traitance industrielle. Ce qui permettait aux hôpitaux d'assurer quelques recettes, d'employer la plupart des malades valides qui travaillaient, les hommes et les femmes, quasiment tous y travaillaient. Et puis c'était aussi un moyen de garantir une certaine paix sociale à l'intérieur, parce qu'il faut s'imaginer, sans la médication qu'aujourd'hui amène ce calme, ben, à l'époque, quand on avait autant de personnes dans un semi-confinement, eh bien, travailler, c'était vraiment quelque chose de primordial. Et les années 30 sont vraiment la décennie où les directeurs des hôpitaux, y compris à Malévo, ont une profession de foi incroyable dans ce qu'ils appelaient la thérapeutique par le travail.
Tableau du travail fourni par les malades. Les femmes ont fait 9283 journées de travaux de ménage, 19002 journées de couture, 9666 journées de cuisine, 2385 journées de tricotage et broderie, 1127 journées de lessive et repassage, 6381 journées de tissage, charpie, plumes, etc. Les hommes ont fait 1176 journées de travaux de maison, 8473 journées de jardinage et ferme, 10066 journées de cornet et d'hiver, 365 journées de travaux de poulailler.
Pour eux, c'était l'idée de se rendre utile, de pouvoir, selon les pathologies d'ailleurs psychiques, adapter les tâches qu'ils faisaient. Par exemple, des malades qui étaient connus pour être un peu agressifs, ben, on les mettait dans des travaux de terrassement pour faire passer leur énergie. Les dépressifs, mélancoliques, et notamment les femmes, on les mettait à faire des travaux de vannerie artistique, des choses, de la broderie. Il y avait vraiment cette notion de thérapeutique par le travail, avec l'espoir pour certains de pouvoir sortir d'hôpital en pouvant être employé à l'extérieur. Donc je dis bien un espoir.
En présence de malentendus qui surgissent parfois à propos de la valeur matérielle du travail de nos malades et de la prétention émise de baisser les prix de pension à cause du travail fourni, nous faisons remarquer une fois de plus que le traitement par le travail, la thérapeutique de l'occupation, est une des nécessités essentielles des soins aux malades nerveux et mentaux. Rien n'est plus efficace pour la réadaptation du malade à la réalité que le travail dès que son état le permet. Il va de soi qu'il ne s'agit pas là d'une chose qui rapporte quoi que ce soit à l'établissement, bien au contraire. Si nous prenons par exemple la fabrication de cornets en papier à laquelle nos malades ont consacré au cours de l'année plus de 10 000 journées, nous voyons que le bénéfice qui en résulte s'élève à 1073 francs 30, autrement dit, à peine 10 centimes par journée de travail de malade. Le fait est que le travail des malades est une charge financière pour les établissements. Dès qu'un malade arrive à fournir un travail régulier et normal, c'est qu'il est suffisamment amélioré pour sortir de l'établissement et rentrer dans l'existence.
Le travail est une notion cruciale dans tous les asiles, dès le début du mouvement asilaire au milieu du XIXe siècle.
Vincent Barras, historien de la médecine.
De nouveau avec cette ambiguïté, à la fois pour rendre de l'argent, pour être utile, mais à la fois aussi parce qu'on sait, on suppose, on souhaite qu'en travaillant, la personne aliénée de son esprit, la personne folle, eh bien, elle retrouve une constance, les pieds sur terre, littéralement, les mains dans la terre, quelque chose de très concret. On retrouve une sérénité, une tranquillité, on se guérit par le travail.
C'est aussi une période où, alors ça dépend des classes sociales et du point de vue forcément, mais en tout cas du côté des classes sociales plus basses, l'oisiveté n'est pas vue d'un très bon œil.
Absolument. L'oisiveté peut même faire partie d'un des symptômes psychiatriques qui mènent à un internement. La personne oisive qui traîne toute la journée au café dans le village, elle pourrait bien être un peu folle et peut-être qu'un jour elle finira à Malévaux. Alors que le riche oisif, quand il est dans une clinique privée, eh bien, c'est sûr qu'on ne va pas lui demander de mettre la main à la pâte. Lui, il joue au billard et il fume des cigares dans le fumoir. Et le lieu de loisir de cette classe aisée, folle mais aisée et payant largement sa part de l'établissement, c'est là où on voit l'ambiguïté de cette notion de travail.
Dans les années 30 et 40, les hôpitaux sont des entreprises économiques. La plupart de ces hôpitaux, ils se sont spécialisés dans la manufacture de sacs en papier, c'est-à-dire l'industrie du papier des cantons sous-traitait les hôpitaux pour que des malades puissent faire ces collages des sacs en papier, d'emballage. Ça contribuait aussi à financer leur séjour, surtout pour la patientèle psychiatrique qui était précaire, dont l'hospitalisation était financée notamment par l'assistance publique. Le fait qu'ils participent à l'économie d'établissement légitimait un petit peu, en quelque sorte, leurs conditions d'assister.
Dans les circonstances actuelles, l'équilibre financier de l'établissement est un sérieux objet de préoccupation. Depuis de longues années, en effet, il était assuré grâce à la présence à Malévaux d'un nombre important de malades provenant de l'étranger qui payaient des prix de pension 5 à 10 fois plus élevés que les Valaisans. On peut dire que les frais d'hospitalisation des Valaisans indigents étaient payés pour près de la moitié par les bénéfices faits sur les malades étrangers soignés dans notre établissement cantonal. La question se pose donc maintenant de savoir si Malévaux, qui depuis quelques années est financièrement autonome, doit supporter la charge des déficits que la crise actuelle lui inflige et contracter des dettes qui obéreront sa situation présente et compromettront peut-être son avenir. Nous ignorons aussi si les conditions de l'Europe après la guerre permettront encore à notre établissement d'équilibrer ses finances d'après le même système qui lui a réussi pendant près de 25 ans.
Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la guerre de 14-18 et Repon a été nommé directeur en 1917, donc il était nommé directeur pendant la guerre, donc ils ont une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un pays voisin de pays en guerre? Pour eux, 20 ans, c'est rien. Donc ils savent, donc ils se préparent. Après, ils ont peur de se faire envahir, surtout en Suisse romande.
La principale menace semblait venir d'Allemagne, notamment disons, pendant la période qui précède l'attaque sur la France. On ne savait pas si Hitler allait décider d'attaquer par la Belgique et les Ardennes, comme il l'a finalement fait, ou attaquer par le plateau suisse pour pénétrer ensuite en France. Donc il y a eu une inquiétude importante à ce moment-là. Bon, on sait aussi que Mussolini avait aussi, en réaction au plan d'Hitler, l'intention de contrôler les axes alpins. Et il y a eu des contacts très secrets entre des officiers supérieurs suisses et français pour mettre en place une éventuelle coopération militaire en cas d'attaque allemande sur la Suisse.
On a tendance à penser que les Alpes sont un peu à la marge du monde et puis que le Valais est un peu à la marge du monde. C'est faux. En 1939, vous avez une très forte population italienne à monter. La société italienne est déjà divisée entre des personnes plutôt proches du fascisme et des personnes très proches du Parti communiste. Donc on a des tensions entre des fascistes et des communistes en Valais. Dans la commune d'Ayen, pour situer, en 1936, il y a des jeunes d'Ayen qui s'engagent pour aller à la guerre d'Espagne. Et puis, il y a d'autres qui ont les chemises brunes, puis qui défilent en faisant le salut fasciste. Et puis, il va avoir un soir, les jeunes socialistes sont réunis, puis les autres jeunes veulent leur tirer des cailloux à la fenêtre. Les socialistes pensent que les autres sont armés, ils prennent des fusils, puis il y a une fusillade dans ce petit village. Et puis, cette fusillade, c'est entre, je pourrais dire aujourd'hui, socialiste et fasciste. Donc le Valais ou la Suisse, elle n'est pas du tout à l'abri des tensions. Elle est traversée par ces tensions.
La Suisse n'échappe pas aux mouvements politiques européens du moment. L'immigration est limitée et donc baisse pendant cette période en termes quantitatifs. Et par rapport au fascisme, il y a à la fois des antifascistes qui viennent se réfugier en Suisse, mais qui sont à peine tolérés. Mais il y a aussi une sympathie qui traverse la société suisse pour le fascisme. C'est en 1937 que l'Université de Lausanne accorde le doctorat honoris causa à Mussolini en disant qu'il a mis en place un système qui laissera une trace durable dans l'histoire. Donc, c'est une sympathie qui s'exprime pas seulement dans les milieux déclarés de l'extrême droite la plus militante, mais aussi parmi les professeurs d'université, parmi un certain nombre de notables, d'autorités intellectuelles, religieuses et autres.
Suivre les psychiatres de cette époque, c'est un exemple particulier de suivre l'Europe. Alors, c'est sûr que vous avez, parmi les psychiatres, et aussi en Suisse, toutes sortes de partis pris. Certains psychiatres suisses se sont distingués, si j'ose dire, de façon remarquable, en épousant très tôt, dans les années 20 ou 30 déjà, les thèses des mouvements nazis ou d'extrême droite concernant les races supérieures et inférieures. Alors, on imagine très bien ce que ça peut donner. En psychiatrie, par exemple, la folie est plus importante chez les races dites dégénérées. La folie est une dégénérescence. Et donc, nous qui sommes pour une idéologie de la pureté raciale ou autre, eh bien, on voit bien ce qu'il faudra éliminer. Et certains psychiatres suisses, on va le nommer, puisqu'il le mérite, Ernest Ruedin, après avoir été formé en Suisse, dirigé à Bâle, en particulier l'hôpital psychiatrique, il est allé en Allemagne, où il est devenu une sorte de ministre, en tout cas une grande autorité du régime nazi pour l'élimination des malades mentaux. Il a activement contribué à ce programme-là.
André Repond, il est un homme de son temps. Il fait une conférence publique à Monthey en 1927 qui s'intitule « L'hygiène mentale et l'intellectuel ». À ce moment-là, il commence d'entrée de jeu par expliquer l'importance de la psychanalyse. Et là, il explique qu'on peut avoir l'apparence d'un être normal, de même réussir socialement, économiquement, et pourtant ne pas avoir résolu des problèmes émotionnels qu'on refoule dans l'inconscient. Et ça peut donner des résultats très fâcheux, c'est-à-dire avoir des comportements, par exemple, de manipulation, des comportements agressifs. Et là, il fait un lien incroyable. Il doit penser au contexte politique, peut-être à la montée en Italie du fascisme. Il dit que le plus malheureux, c'est qu'il y a des hommes qui deviennent des chefs, des leaders politiques. Comme ils sont des nerveux qui s'ignorent, là je le cite, ils vont arriver au pouvoir et ils vont se présenter comme des bergers d'un troupeau d'hommes et de femmes et ils peuvent basculer dans une dérive tyrannique, totalitaire, parce qu'ils n'ont pas résolu par les moyens psychanalytiques des problèmes émotionnels. La même lecture va être appliquée à Adolf Hitler par André Repond. En 1942, il crée la revue de Pro Infirmis et dans cette revue, il va consacrer un article intitulé « Sur l'euthanasie » et il se réfère explicitement aux pratiques sous le Troisième Reich d'extermination des handicapés mentaux. Et là, il va prendre position virulente contre ce qu'il appelle un crime. Et en se référant à Hitler, il parle vraiment d'un fou qui a embarqué dans son délire de destruction toute une population, je cite, « momentanément déséquilibrée ». Donc Repond, il est un observateur extrêmement inquiet du contexte politique de son temps et il va utiliser justement sa conception de la psychiatrie qui est l'idée de prévenir justement la maladie et la délinquance et le crime par des moyens éducatifs précoces.
«
1940. Pendant la plus grande partie de la bonne saison, 4 de nos ouvriers jardiniers ont été mobilisés. Nous avons en partie pu remplacer ce manque de main-d'œuvre par des journaliers. La vigne a donné une récolte moyenne. Les poiriers, épuisés par la forte production de 1939, ont été d'un faible rendement. En revanche, les pommiers étaient comme partout particulièrement beaux et ont donné une récolte de près de 5000 kilos. Les cultures florales ont été maintenues dans les proportions habituelles. Elles sont beaucoup admirées par nos visiteurs et ont obtenu, lors d'une visite d'inspection de la Société d'horticulture, le maximum de points.
Ce qui est surprenant lorsqu'on lit les rapports, mais on peut se fier qu'aux rapports, on a l'impression que, pour les patients, c'est business as usual. Mais la guerre va avoir des impacts gigantesques sur la clientèle, puisque la clientèle étrangère ne peut plus venir ou vient moins. Donc, il y a moins d'argent qui rentre.
Nous répétons ce que nous faisions remarquer dans notre rapport de l'année précédente. Pendant 25 ans, la maison de santé de Malévaux a pris à sa charge une grande partie des frais de l'assistance publique aux malades nerveux et mentaux du canton. Elle a même, pendant un bon nombre d'années, versé, sous forme d'amortissement ou d'excédent de recettes, des sommes importantes à la caisse de l'État, au total plus de 200 000 francs. Il nous paraît donc équitable que les finances publiques prennent à leur charge, pendant la crise financière résultant de la guerre, les déficits de l'établissement de Malévaux, comme le font d'ailleurs, et dans une proportion beaucoup plus importante, tous les autres cantons suisses pour leurs asiles.
On a un impact sur les biens matériels. Il faut trouver un autre système de chauffage parce qu'il n'y a plus de charbon et tout ça. Donc on va réinstaller des chauffages à bois pour faire fonctionner cet hôpital. Il y a vraiment cette volonté, il faut que les patients soient soignés, nourris, guéris, et puis l'espèce de génie de gérer tout ça.
Nous avons restreint avant tout le service d'eau chaude en mettant hors service deux boilers d'un contenu de 7000 litres et la grosse chaudière qui brûlait quotidiennement 4 à 500 kilos de charbon. La consommation de charbon pour l'eau chaude est actuellement d'environ 230 kilos par jour. Nous avons appliqué aussi d'une manière très stricte les restrictions pour le chauffage. Nous utilisons actuellement les combustibles de nos réserves. À cause des restrictions du chauffage, nous avons dû nous décider à entreprendre de nombreuses réparations et modifications de nos installations. C'est grâce à ces diverses modifications que nous avons pu faire de très importantes économies sur le combustible et ménager nos stocks.
Comme il n'y avait pas de charbon en quantité suffisante en Suisse, l'essentiel du charbon venait d'Allemagne ou des zones occupées par le Troisième Reich pendant cette période. Donc c'était des négociations évidemment secrètes entre les dirigeants suisses et allemands. Les Allemands voulaient des produits industriels. Les Suisses répondaient « Ah oui, mais si vous voulez qu'on les produise, il faut qu'on puisse faire tourner nos usines, faire chauffer les logements de nos ouvriers, donc vous devez nous donner du charbon. »
C'était quel genre de denrées qui étaient fournies ?
Par la Suisse ?
Ouais.
Notamment des canons anti-aériens qui étaient produits par l'entreprise Burley dans la région zurichoise. Et Burley est devenu l'homme le plus riche de Suisse pendant cette période-là. C'était aussi des têtes de fusées, c'était toutes sortes de produits.
On parle de matériel militaire, là, du coup, pour le coup.
Oui, c'était du matériel militaire et puis aussi d'autres produits, la chimie, la pharmacie, toutes sortes de produits que la Suisse était pratiquement le seul pays capable de produire. Mais disons, le fait est que ce qu'on obtenait de charbon n'était pas suffisant, ce qui impliquait des restrictions à tous les niveaux.
Nous recevons du combustible en quantité tout à fait insuffisante pour assurer le service de la cuisine, de la buanderie et de l'eau des bains. Le nouveau rationnement du gaz nous a contraints à mettre hors service deux chaudières, un fourneau potager et des fours. nous avons dû les remplacer tant bien que mal en installant des marmites de fonte chauffées au bois. Mais le problème de trouver du bois de chauffage devient tous les jours plus difficile. Quant au service d'eau chaude pour les bains de propreté et les bains thérapeutiques, nous rencontrons là aussi des difficultés presque insurmontables.
Tout ce qui pouvait brûler, chauffer, était utilisé. Donc, il y avait le charbon qui était importé. On a aussi, par exemple, exploité la tourbe qui pouvait être utilisée comme substitut. Il y a différents minerais qui ont pu être trouvés en Suisse, qui ont été exploités, qui, avant 1939, n'étaient pas rentables, mais qui pouvaient être rentables dans les conditions de l'économie de guerre. Et évidemment, avec la rareté de ces produits, leur prix a augmenté.
Le combustible du pays n'amène la température de l'eau dans les boilers qu'à 50 degrés en moyenne. Une bonne partie de cette chaleur se perd dans les canalisations souterraines, de sorte qu'en arrivant dans les pavillons, l'eau est tombée à une température tout à fait insuffisante. Nous avons donc dû installer des boilers électriques dans ces pavillons. Mais pour les 5 pavillons cliniques, les boilers électriques ne donnent pas une quantité d'eau suffisante. D'ailleurs, le transformateur et les conduites électriques ne sont pas prévus pour cette surcharge de courant. Aussi, nos difficultés continuent-elles à être grandes. Nous tenterons de les résoudre par des moyens de fortune. Le chauffage des pavillons pour le prochain hiver nous donne aussi de grosses préoccupations, car il ne sera probablement pas possible d'obtenir de l'anthracite du pays en quantité suffisante.
Dans le cadre de l'économie de guerre, il y avait tous ces systèmes de rationnement, tout ce qui était possible d'utiliser pour nourrir la population ou pour la chauffer était utilisé. Donc assez rapidement, les autorités vont mettre en place ce qu'on va appeler le plan Wallon, qui consistait à cultiver toutes les zones disponibles pour la culture, donc y compris dans les villes, les stades de foot, les jardins publics, tous les endroits où on pouvait faire pousser des légumes ont été utilisés. Alors, il y a des photos qui restent, des labours, des stades de foot et des scènes ainsi inhabituelles, mais qui, disons, marquent les esprits parce que c'est les conditions de l'époque.
Nous avons fait de grands efforts pour augmenter la production des légumes et en 1942, nous intensifierons encore nos cultures. Un essai intéressant a été celui de l'entreculture dans la vigne. Nous avons planté une ligne sur deux de pommes de terre hâtives. Sans que cela nuise nullement au pied de nos vignes, nous avons obtenu par cette culture dérobée une récolte de plus de 4000 kg de pommes de terre sur l'ensemble de notre vignoble. Dès le mois d'août, tout le terrain était entièrement libre pour la vigne. Nous avons dû réduire nos cultures florales en nous efforçant cependant de ne pas nuire à l'ensemble de nos décorations. Basse-cour. Le manque presque complet d'aliments pour la volaille a réduit dans des proportions catastrophiques le rendement de nos poulaillers. Nous avons obtenu en tout 19 405 œufs seulement, alors que la production de 1940 avait été encore de 48 369 œufs. Bien entendu, nous avons été obligés de réduire considérablement notre élevage de poulets, faute de pouvoir les nourrir. De plus, le manque d'huile, de foie, de morue, de farine, de viande et de certains médicaments préventifs a favorisé l'éclosion d'épidémies. Si le ravitaillement du pays n'était pas si difficile, nous abandonnerions certainement l'aviculture, car les œufs et le poulet sont vraiment devenus des objets de grand luxe. Toutefois, nous avons besoin d'œufs pour nos malades. C'est même le seul aliment que certains d'entre eux peuvent consommer. Aussi sommes-nous obligés de continuer à maintenir notre aviculture, que nous essaierons de compenser par l'élevage du lapin. Pour approvisionner nos ateliers en matière textile, nous avons semé du lin et du chanvre. Ce dernier a parfaitement réussi. Tout le travail, séchage, rouissage, décortication des fibres, de même que le filage, a été accompli par la sœur et les malades femmes travaillant dans l'atelier de tissage. nous avons dû à cet effet rechercher les anciens appareils et instruments employés autrefois pour ces divers travaux. Nous en avons retrouvé dans le Haut-Valais, où les traditions de culture et d'utilisation des plantes textiles semblent s'être beaucoup mieux conservées. Pour toutes ces manutentions, il faut naturellement une certaine expérience. Monsieur Clemens Mangisch de Betten-sur-Meurel a bien voulu venir passer quelques jours dans l'établissement pour nous les enseigner. Nous comptons d'ailleurs continuer et développer encore ces cultures de textiles remises en honneur par les difficultés de la période présente. La sécheresse a retardé la croissance de toutes nos semailles. Un gros champ de 3 hectares n'a absolument rien produit, bien qu'il ait été ensemencé 3 fois. Le maïs et les betteraves ont eu beaucoup de peine à germer et n'ont été sauvés que grâce à l'achat d'une pompe d'arrosage. La récolte de colza a été déplorable car nos champs ont été envahis par le méliguette du colza, contre lequel le gésarol utilisé trop tard n'a pas eu une grande efficacité. Les pluies persistantes ont diminué de beaucoup le rendement des betteraves sucrières et fourragères. Les premières ont eu une quantité de sucre bien inférieure à la moyenne, et quant aux autres, retardées dans leur développement, elles sont demeurées petites et se sont assez mal conservées. Les foins furent médiocres et les regains encore pires. Le nombre des admissions a été de 271, en augmentation de 27 par rapport à 1941. C'est le chiffre le plus élevé qui ait été atteint depuis la fondation de l'établissement. Les admissions de Valaisans ont été au nombre de 193, augmentation de 9, celles des confédérés de 51, diminution de 1, et celles des étrangers de 27, augmentation de 19. Ces derniers se sont recrutés surtout chez les hospitalisés militaires, étrangers ou les réfugiés. Le sort tragique de ces derniers, leurs expériences émouvantes et aventureuses dans leur fuite pour échapper à la déportation ou la mort, l'anéantissement ou du moins la disparition totale de leur famille, la perte de tous leurs biens les avaient réduits au degré les plus extrêmes de l'épuisement physique et moral. On remarquera la diminution progressive et qui s'accentue encore, du nombre des malades soignés en première classe. Ces derniers, on le sait, provenaient pour la plupart de l'étranger. L'accès de notre pays leur est maintenant malheureusement interdit. Nous avons reçu de nombreuses demandes d'admission, notamment de France. Dans la plupart des cas, les passeports ont été refusés. Ces demandes démontrent toutefois que malgré les événements actuels, notre établissement n'a pas perdu sa bonne réputation à l'étranger et que, après la guerre, nous pourrons probablement compter à nouveau sur une abondante clientèle appartenant à la classe aisée. Aussi sommes-nous en droit d'espérer que la situation financière de l'établissement en sera à nouveau considérablement améliorée. Pour cette année, nous bouclons nos comptes par un déficit de 54 854 francs et 16 centimes.
Au cœur de la guerre, la direction de l'hôpital se démène pour maintenir le cap et prendre soin des patients et des patientes. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser aux personnes soignées à la maison de santé de Malévo. Qui étaient-elles ? Qu'est-ce qui les a menés, en pleine guerre, à franchir les portes d'un asile psychiatrique ?
Les rapports Repond, histoire d'un hôpital psychiatrique suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale, une série de podcasts documentaires de Gabriel Binder et Gérald Wang, avec Jean-Luc Borja dans le rôle d'André Repond. Voix off, Milou Beng. Piano, Daniel Hernandez. Réalisation, prise de son, montage et mixage, Gérald Wang. Une production Pavillon Nomade Malévo Quartier Culturel avec le soutien de la Fondation Philanthropique de Famille Sandeau.